Nous allons voir maintenant dans les numéros 54 et 55 que la foi est une lumière aussi pour la vie en société. On peut faire un petit avant-propos et une mise en garde. C'est clair qu'on va se répéter et on va redire beaucoup de choses qu'on a déjà dites. Mais voyez, la foi, c'est une relation vivante, c'est cette découverte et cette relation intime avec Dieu, notre Père, qui se révèle en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun de nous. Et après, cette foi, quand on l'a découverte, il faut l'alimenter, il faut la vivre chaque jour. Et entre autres, par la prière. Voilà. Et c'est vrai que cette joie de la foi nous habite. Mais en même temps, la foi n'est pas faite que pour nous et pour qu'on vive dans un cocon. On doit la rayonner et on doit en vivre. Et elle doit habiter tous nos actes. Et à l'inverse, on aurait tendance après peut-être à tomber dans un activisme, dans l'activité intense, et en oubliant l'essentiel, en oubliant Dieu. Alors voilà, on va parler de la vie en société, mais tout en gardant en mémoire que notre action dans la vie en société ne pourra vraiment être féconde que si on garde cette relation intime avec Dieu, si on garde cette relation intime personnel et qu'on prenne du temps pour prier, pour alimenter notre foi et pour chaque jour renouveler notre foi en Dieu. Voilà, donc il faut bien le garder en mémoire. Frère Xavier, tout à l'heure, en parlant du bien commun, nous a dit, en citant bien sûr le compendium de la doctrine sociale de l'Église au numéro 166, que les exigences du bien commun concernent avant tout l'organisation des pouvoirs de l'État, un ordre juridique solide, et la sauvegarde de l'environnement, la prestation des services essentiels aux personnes, et dont certains sont en même temps des droits de l'homme. Et donc, il a parlé de l'alimentation, du logement, du travail, de l'éducation, de l'accès à la culture, des transports, de la santé, de la libre circulation des informations et de la liberté religieuse. Et cela est très, très important. En effet, la foi éclaire la vie en société et devient lumière pour éclairer tous les rapports sociaux. Vous voyez, la foi, ce n'est pas quelque chose à reléguer du domaine privé. La foi doit déborder et doit être un peu l'essence, le moteur, même pour notre vie en société. En effet, la foi possède une lumière créative pour chaque mouvement nouveau de l'histoire, parce qu'elle situe tous les événements en rapport avec l'origine et le destin de toute chose dans le Père qui nous aime. Vous voyez, la foi nous remet à l'essentiel, elle nous recentre vers l'essentiel. Et le pape poursuit en disant que dans la modernité, écoutez bien cette petite phrase, on a cherché à construire la fraternité universelle entre les hommes en la fondant sur leur égalité. Vous voyez, il y a fraternité, égalité, il en manque un troisième, liberté. Et vous voyez, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas propre à la République, ce n'est pas propre à la démocratie. Vous voyez, même l'Église doit employer ces mots. Il ne faut pas avoir peur d'employer ces mots. Et justement, le pape met un peu le doigt là-dessus. On a voulu fonder une fraternité, être des camarades, si vous voulez, mais la fondant juste sur notre égalité. Et on a oublié cette référence à Dieu, le Père. On a tous un Père en commun. Et c'est ça l'essentiel. Et alors, peu à peu, cependant, nous avons compris que cette fraternité, privée de la référence à un Père commun comme son fondement ultime, ne réussit pas à subsister. Parce que bien sûr, on peut bien s'appeler frère, on peut bien s'appeler camarade, mais après, quand on a des avantages à sauvegarder, le frère, tu dégages. Et donc, voyez, l'expérience de la paternité et de la miséricorde de Dieu doit s'élargir ensuite en chemin fraternel. Il faut revenir à la vraie racine de la fraternité. On est frères parce qu'on a tous un unique et même Père. Et c'est très important. Il ne faut pas le mettre de côté. La foi nous enseigne à voir que dans chaque homme, il y a une bénédiction pour chacun de nous, pour moi. Vous voyez, il faut voir dans chaque frère, dans chaque sœur qui nous entoure, le visage de Dieu. le visage de Dieu qui m'illumine à travers justement ce frère, ce visage du frère. Et donc on a vu que le bien commun, eh bien, c'était l'alimentation, enfin, le droit de l'homme à avoir une alimentation correcte, logement, le travail, l'éducation. Eh bien, tout ça, regardez toute l'œuvre hospitalière, des hôpitaux, des associations caritatives, de l'Église. J'ai fait une petite recherche sur le sacré saint Google. On ne peut rien faire maintenant sans Google. Et c'était très amusant. J'ai regardé les hôtels Dieu. Et dans chaque ville, quasiment en France, on a un hôtel Dieu. Même dans une république... Oui, à Marseille, maintenant, c'est devenu un palace 5 étoiles. Mais il n'y a qu'à Marseille que c'est le cas. Mais sinon, bah, c'est toujours resté des hôpitaux. D'ailleurs, c'est très marrant. La plupart portent un nom de saint. Et bah, j'ai regardé d'abord l'Hôtel Dieu de Paris. Bah, Google met en première page, en gros plan, que ça a été fondé par un évêque, un saint évêque de Paris en 600 et quelques. Très bien. Et donc, bah, y en a à Rennes, il y en a à Nantes, il y en a à Bordeaux, il y en a à Lyon. Il y en a un aussi à Toulouse qui s'appelle l'Hôtel Saint-Jacques. Et il y avait dans l'historique de l'hôpital, parce que maintenant c'est un CHU bien laïque, tout ce que vous voulez, bien que dans les photos du CHU, eh ben, il y a de très belles photos de la chapelle qui demeure, avec un beau crucifix. Et alors, voilà quelle était la définition de l'hôpital médiéval occidental qui était donnée sur ce site internet du CHU de Toulouse. À la différence de l'Antiquité, le Moyen-Âge chrétien applique le principe de la charité évangélique qui inspire la conception de l'hôpital. Et notez bien que la création originale du christianisme, c'est-à-dire à Byzance, en 363 sous l'égide de Saint Justin l'Apostat, qui est fondé le premier établissement destiné à accueillir les malades. Vous voyez, c'est vraiment propre au christianisme. Les hôpitaux ont commencé grâce au christianisme, en 363. Mais la suite est encore plus éclairante pour les temps que nous vivons. Donc, vous voyez, il parle du Moyen-Âge. Ça, c'est, enfin... Les hôpitaux chrétiens sont les précurseurs des soins universels. Et entre parenthèses, il est dit, mais pour les catholiques seulement jusqu'en 1789. Vous voyez, je trouve que c'est très, très significatif. Les hôpitaux chrétiens sont les précurseurs des soins universels, mais ça s'arrête en 1789. Après l'Église, on n'en veut plus. Et bien sûr, ben, ces hôpitaux étaient gratuits pour les pauvres. L'hôpital n'attend pas de l'hospitaliser pauvre, rien en contrepartie. La charité est le maître mot au Moyen-Âge. Et entre parenthèses, il est cité, celui d'assistance, à connotation laïque, sera celui du XVIIIe siècle. Vous voyez, ben, il faut bien remettre les choses à leur place. Et ben, il ne faut pas se laisser impressionner par l'État, par les lois qu'édicte l'État. Vous voyez, c'est notre propre... Les hôpitaux, les œuvres caritatives, l'humanitaire, c'est pas propre à l'État maintenant. C'est vrai que, vous voyez, on a l'air de dire que bah, l'Église a été précurseur, mais maintenant, bah, c'est à l'État de tout reprendre en main et de tout laïciser. Eh ben non. Et regardez toutes les œuvres que l'Église a pu accomplir à travers les saints pour les hôpitaux. Regardez l'œuvre extraordinaire de Mère Teresa qui a touché beaucoup de monde. Vous voyez, l'œuvre éducative, on a vu dans le bien commun que l'éducation, c'était un droit fondamental de l'homme. Et ben, regardez ce qu'a fait Don Bosco, regardez toute l'œuvre fantastique qu'a fait Saint Jean-Baptiste de la Salle avec les frères des écoles chrétiennes. Et il y en aurait encore tant et tant d'autres. Vous voyez, ben, l'école pour tous, on ne la doit pas à Jules Ferry au début du XXe siècle. L'Église était bien aussi précurseur de l'école pour tous, et ben tout cela, ça doit subsister. Alors c'est vrai qu'il faut prendre conscience qu'on vit, surtout en France et dans l'Occident, ben, dans une mentalité très laïcarde où on veut mettre Dieu dans les sphères privées. Et ben non, vous voyez, il faut tenir bon et il faut que dans notre agir, on puisse voir qu'on est chrétien. Vous voyez, et se battre avec les armes de la charité, de la foi, de l'amour, de la paix. Mais bah, pour rayonner bah, cet amour de Dieu, parce que eh ben, avec la foi, on a accueilli en nous cet amour de Dieu, mais l'amour, c'est ce qui se donne. Dieu s'est donné à nous, et en réponse, on doit se donner à Dieu et aux autres. Et puis aussi, ben, le Saint-Père nous exhorte encore dans ces deux numéros, ça va y avoir encore 2 minutes. Aussi, à l'amour de Dieu créateur. Et par notre foi, on doit aussi respecter davantage la nature, la création. Vous voyez, ben, l'écologie non plus, ben, c'est pas propre au parti écologiste. En tout cas, en France, ben, dès qu'on parle d'écologie, ben, c'est surtout un parti qui n'est pas très chrétien. Et ben, justement, l'écologie, c'est pas réservé qu'à eux. Et nous, catholiques, nous, ayant la foi, on doit se sentir concerné par le respect de la création. Et pour cela, je vous invite à revenir au discours que Benoît XVI a prononcé devant les parlementaires allemands le 22 septembre 2011. C'est très très important, c'est vraiment à reprendre. Justement, il leur a parlé de l'écologie en disant que c'était très important de respecter la création, mais que la première créature à respecter, c'était l'homme. Vous voyez, dans notre parti écologiste en France, ben, il faut respecter la nature, mais l'homme, ben, on fait ce qu'on veut avec l'homme. L'amour libre, il serait prêt pour l'euthanasie, des choses comme ça, et ben, c'est pas la vraie écologie, ça. Justement, ben, la foi doit éclairer et ben, la vraie écologie. Il y a aussi une toute petite phrase où « La foi nous enseigne à découvrir des formes justes de gouvernement ». Reconnaissant que l'autorité vient de Dieu pour être au service du bien commun. Vous voyez, on rejoint un peu ce que disait frère Xavier. Ça aussi, ben, je vous invite à reprendre aussi les discours de Benoît XVI, donc au parlementaire allemand, et aussi en Angleterre. Et vous voyez que l'engagement en politique, c'est pas réservé aux francs-maçons. Les catholiques aussi doivent s'engager en politique, tout en gardant ben, devant eux que c'est un service. L'autorité est un service, c'est pas un pouvoir pour s'en mettre plein les poches. Et puis aussi, très très important, la foi affirme aussi la possibilité du pardon. Vous voyez, je ne reviendrai pas sur le témoignage bouleversant de Fouad, mais combien ben, le pardon est le propre de notre de la foi chrétienne. Et ben, c'est vrai que le pardon, il faut le vivre, c'est peut-être pas toujours facile, mais parce qu'il nécessite du temps, des efforts, de la patience et de l'engagement. Mais le pardon est possible si on découvre que le bien est toujours plus originaire et plus fort que le mal, que la parole par laquelle Dieu soutient notre vie est plus profonde que toutes nos négations. Et d'ailleurs, le pape nous encourage à prendre en charge le conflit. Mais le fait de le vivre doit nous amener à le résoudre. Il ne faut pas s'engager dans un conflit pour prendre parti d'un côté ou de l'autre et pour attiser le conflit. Au contraire, non. C'est pour le résoudre. Gardez cela en mémoire. Et puis, on a vu aussi que la foi, c'était la confiance. On a parlé de fiabilité. C'est Dieu qui nous fait confiance et on fait confiance en Dieu. Et ben cela doit aussi enfin, se retrouver dans nos engagements en société. Et le pape nous dit dans l'encyclique, quand la foi diminue, il y a le risque que même les fondements de l'existence s'amoindrissent. Et si nous ôtons la foi en Dieu de nos villes, et ben il s'affaiblira la confiance entre nous et nous nous tiendrons unis seulement par peur et la stabilité sera menacée. Et puis pour ouvrir le propos de sœur Hélène sur la souffrance, eh ben c'est bien l'activité. Enfin, il faut agir tout en gardant en mémoire qu'il ben, faut garder la foi et donc la cultiver chaque jour par la prière, par cette relation vivante. Et on va voir avec sœur Hélène aussi que la foi peut nous éclairer même dans nos moments de souffrance et que même en étant inactif, eh ben on peut porter du fruit.